Alfred Assolant, Rose d'amour, 1889. J'avais à peu près 10 ans quand je fis connaissance avec Bernard. Mais avant tout, madame, il faut que je vous parle un peu de ma famille. Mon père était charpentier et ma mère blanchisseuse. Il n'avait pour tout bien que 5 filles, dont je suis la plus jeune, et une maison que mon père bâtit lui-même sans l'aide de personne et sans qu'il lui en coûtât un centime. Elle était perchée sur la pointe d'un rocher qu'on s'attendait tous les jours à voir rouler au fond de la vallée et qui, pour cette raison, n'avait pas trouvé de propriétaire. Quand j'étais enfant, j'allais m'asseoir à l'extrémité du rocher sur une petite marche en pierre d'où l'on pouvait voir à 300 pieds au-dessous du sol la plus grande partie de la ville. Mon père, après sa journée finie, venait s'asseoir à côté de moi. Son plaisir était de me prendre dans ses bras et de regarder le ciel sans rien dire pendant des heures entières. Il ne parlait du reste à personne, excepté à ma mère et encore, bien rarement, soit qu'il fût fatigué du travail, car la hache et la scie sont de durs outils, soit qu'il pensât, comme je l'ai cru souvent, à des choses que nous ne pouvions pas comprendre. C'était, du reste, un très bon ouvrier, très doux, très exact, et qui n'allait pas au cabaret 3 fois par an. Ah, si mon père était silencieux, ma mère, en revanche, parlait pour lui, pour elle et pour toute la famille. Comme elle avait le verbe haut et la voix forte, on l'entendait de tout le voisinage. Mais ses gestes étaient encore plus prompts que ses paroles, et d'un revers de main, elle rétablissait partout l'ordre et la paix. Sa main était, révérence parlée, comme un vrai magasin de tape, et la clé était toujours sur la porte du magasin. Au premier mot que nous disions de travers, mes sœurs et moi, la pauvre chère femme, oh, que Dieu ait son âme, en son saint paradis, nous choisissait l'une de ses plus belles gifles et nous l'appliquait sur la joue. Et croyez bien, madame, que nous n'avions pas envie de rire, car ses mains endurcies par le travail avaient la pesanteur de 2 battoirs. Du reste, bonne femme, qui pleurait comme une madeleine les jours d'enterrement, et qui aurait donné pour mon père et pour nous son sang et sa vie, mais quant à crier, battre et se disputer avec ses voisins, elle n'y aurait pas renoncé pour un empire. Mon père, qui était la bonté même, voyait et entendait tout sans se plaindre, se contentait de lever quelquefois les épaules, ce qui ne le sauvait même pas de tout reproche. Mais il était dur à la peine. Il disait souvent « Ah, nous ne sommes pas en ce moment pour avoir nos aises, et puisque nous ne pouvons pas avoir d'enfants sans nos femmes, faut bien savoir supporter nos femmes. » On l'appelait le vieux sans souci, parce que jamais personne n'avait pu le mettre en colère, ni homme, ni enfant, ni créature vivante, et qui n'aurait pas donné une chiquenaude même à un chien, excepté pour se défendre de la mort. Un jour, en revenant du lavoir, ma mère se sentit fort altérée et tout en sueur. Elle but un grand verre d'eau froide, tomba malade et mourut la semaine suivante. Mon père l'amena au cimetière sans pleurer et revint à la maison avec mes sœurs et moi. Il nous embrassa toutes, donna les clés de ma mère à ma sœur aînée qui avait déjà 18 ans, s'assit dans le coin de la cheminée et mit sa tête entre ses mains. À dater de ce jour-là, le vieux sans souci, qui n'avait guère parlé jusque-là, ne parla plus du tout. Il avait l'air de rêver nuit et jour, et nous-mêmes, intimidés par son silence, nous ne parlions plus qu'à voix basse pour ne pas l'interrompre dans ses rêves. Cependant, mes sœurs se marièrent l'une après l'autre, quand l'âge fut venu, et laissèrent là mon père, avec qui je restais bientôt seul. J'avais alors 10 ans, et ce fut vers ce temps-là, comme je vous le disais en commençant, que je fis pour la première fois connaissance avec Bernard, dit l'éveillé et le vire-loup. Car vous savez, madame, que c'est assez la coutume chez nous de donner des surnoms aux garçons comme aux filles, et que ces surnoms font souvent oublier le nom que nous a donné notre père. Moi, par exemple, quoiqu'à l'église et à la mairie l'on m'ait appelé Marie, je n'ai jamais, depuis l'âge de 12 ans, répondu qu'au nom de Rose d'amour, que les filles de mon âge me donnaient par dérision et que les garçons répétaient par habitude. Car il faut vous dire, madame, et vous devez le voir aujourd'hui, que je n'ai jamais été jolie, même au temps où l'on dit communément que toutes les filles le sont, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans. J'avais les cheveux noirs, naturellement, les yeux bleus et assez doux, à ce que disait quelquefois mon père, qui ne pouvait pas se lasser de me regarder, mais tout le reste de la figure était fort ordinaire. Et si j'ajoute que je n'étais ni boiteuse, ni manchotte, ni malade, ni mal conformée, que j'avais des dents assez blanches et que je riais toute la journée, vous aurez tout mon portrait. Du reste, on m'aimait assez dans le voisinage, parce que je n'avais jamais fait un mauvais tour, ni donné un coup de langue à personne, ce qui est rare parmi les pauvres gens, et plus rare encore, dit-on, chez les riches. Il ne faudrait pas croire que je fusse le moins du monde malheureuse de vivre avec mon père, quoiqu'il ne me dit pas 6 mots par jour, si ce n'est pour les soins du ménage, et que nous n'eussions pas toujours de quoi vivre. Les gens qui se portent bien et qui travaillent n'ont pas de très grands besoins. Un petit écu leur suffit pour la moitié d'une semaine. Et s'il ne suffit pas, ils prennent patience, sachant bien que la vie est courte, que la bonne conscience est mère de la bonne humeur et que la gaieté vaut tous les autres biens. Tous les soirs, après souper, dans la belle saison, j'allais me promener avec mon père et quelques voisins dans la campagne. Nous montions dans ce bois de châtaigniers que vous connaissez et qui est sur la hauteur à une demi-lieue de la ville. Là, mon père se couchait sur le gazon, les yeux tournés vers les étoiles, et moi, je courais autour de lui avec les enfants de mon âge. L'hiver, nous restions au coin du feu, tantôt chez nous, tantôt chez le père Bernard, dit tape à l'œil, afin de ménager le bois qui ne se donne pas dans notre pays et qui coûte aussi cher que le pain. Un soir, c'était au mois d'avril, mon père ne voulut pas venir avec nous et me laissa aller au bois avec plusieurs autres garçons et filles sous la conduite de la mère Bernard, qui était une femme très respectable et âgée. Tout en courant, je m'égarais un peu dans le bois qui n'était pas toujours sûr. Les loups y venaient quelquefois de la grande forêt de la Renarderie, qui n'est qu'à 6 lieues de là. Justement, ce jour-là, des chasseurs avaient fait une battue dans la forêt, et un vieux loup, pour échapper aux chiens, s'étant jeté dans la campagne, avait cherché un asile dans le bois où je courais. J'étais seul avec un jeune garçon plus âgé que moi de 3 ans, qu'on appelait Bernard l'Éveillé, lorsqu'au détour du sentier, je vois venir à moi le loup, une grande et énorme bête avec une gueule écumante et des yeux étincelants que je vois encore. Je pousse des cris affreux et je veux fuir, mais le loup, qui peut-être ne songeait pas à moi, courait pourtant de mon côté et allait m'atteindre. J'entendais déjà le bruit de ses pattes qui retombaient lourdement sur la terre et froissaient les feuilles des arbres dont les chemins étaient couverts depuis l'hiver, lorsque tout à coup, Bernard l'Éveillé se jette au-devant de lui. Comme il n'avait ni arme ni bâton, il quitte sa veste, attend le loup, et le voyant à la portée, lui jette sur la tête pour l'étouffer. En même temps, il m'appelle à son secours, mais j'étais bien embarrassé, et pendant qu'avec les manches de sa veste, il cherchait à étouffer le loup, je poussais des cris effrayants au lieu de l'aider. Le loup, tout enveloppé dans la veste de Bernard, poussait le sourd hurlement, se dressait contre lui, cherchait à le mordre et à le déchirer. Oh, je ne sais pas comment l'affaire aurait fini si les chasseurs et les chiens qui le poursuivaient depuis plusieurs lieues n'étaient pas arrivés en ce moment pour délivrer Bernard. Le loup fut tué d'un coup de couteau de chasse. Les chasseurs firent de grands compliments à Bernard pour son courage, et l'on nous remit tous deux dans notre chemin. Bien, madame, cette petite aventure a décidé de ma vie. Vous devinez aisément comment Bernard fut reçu par mon père lorsqu'il eut appris mon danger et la manière dont il m'en avait tiré. De ce jour-là, Bernard devint notre ami le plus cher et ne nous quitta plus, surtout le dimanche. Il perdit son surnom de l'éveillé pour celui de Virloup, qui rappelait son courage, et mon père ne fit plus une partie de campagne sans y inviter Bernard, qui, de son côté, ne se fit pas prier et ne me quittait pas plus que mon ombre. À parler sincèrement, madame, je crois que les belles demoiselles des villes, qui ont des chapeaux de velours, des crinolines, des robes de soie, des écharpes, des cachemires, des bagues, des bracelets, et généralement tout ce qui leur plaît, tout ce qui coûte cher, ne sont pas moitié si heureuses que nous avant leur mariage, ni peut-être même quand elles sont mariées. Et je vais vous en dire la raison. S'il leur prend fantaisie d'avoir un amoureux et de courir les champs avec lui, en tout bien tout honneur, s'entend, et d'admirer la lune et l'herbe verte des prés, et la hauteur des arbres et la beauté du ciel, et les étoiles qui ressemblent à des clous d'or et qui font rêver si longtemps à des pays inconnus et magnifiques, on les enferme dans leur chambre, on tourne la clé à double tour, et on les engage à lire l'Écriture sainte, qui est une très bonne lecture ou l'imitation de Jésus-Christ. Et si l'on veut agir plus doucement avec elles, on leur fait de beaux et longs sermons qui durent 3 heures ou 3 quarts d'heure, sur la manière de penser, de parler, de s'asseoir, de regarder les jeunes gens du coin de l'œil sans en faire semblant, et d'attendre après sur des chaises qu'ils viennent les chercher, soit pour la danse, soit pour le mariage, et de ne pas écouter un mot de ces beaux jeunes gens si bien gantés, cirés, frisés et pommadés, à moins que les parents n'aient connu d'abord s'ils sont riches ou s'ils sont pauvres, s'ils ont des places ou s'ils n'en ont pas, si la famille est convenable, et plusieurs autres belles choses qui sont sagement inventées pour refroidir l'inclination naturelle des deux sexes à s'aimer l'un et l'autre et à se le dire. Tout cela, madame, est sans doute très juste, très bien arrangé et très nécessaire pour sauver de toute atteinte la fragilité des demoiselles. Mais il faut dire aussi que ce serait à les faire périr d'ennui si elles n'avaient la consolation de penser que leurs mères se sont ennuyées de la même façon ou n'en sont pas mortes, et qu'étant aussi bien constituées que leur mère, elles n'en mourront sans doute pas davantage. Cependant, une Anglaise, qui travaillait dans le même atelier que moi, m'a souvent assuré que les demoiselles de son pays n'étaient pas plus surveillées que nos ouvrières, qu'elles couraient les champs avec les jeunes gens, qu'elles faisaient des parties de plaisir et que cela ne les empêchait pas de se bien conduire et de se bien marier. Mais, comme vous savez, madame, chacun est juge de ses affaires. Et si on a décidé qu'en France, les demoiselles baisseraient toujours les yeux, tiendraient les coudes attachés au corps, ne parleraient que pour répondre et jamais pour interroger, c'est leur affaire et non la mienne. Permettez-moi seulement de dire que j'aime mieux, oh, toute pauvre qu'elle est, la condition d'une ouvrière qui fait sa volonté matin et soir, que celle d'une demoiselle qui aurait en dot des terres, des prés, des châteaux, des fabriques et des billets de banque, et qui obéit toute sa vie, fille à son père et femme à son mari. Alors pour moi, qui avais le bonheur de n'être pas gardée à vue et tenue dans une chambre comme une demoiselle et surveillée à tout instant, et écartée de la compagnie des garçons, ni d'aucune compagnie plaisante et agréable, je n'attendis pas 15 ans pour avoir mon amoureux en titre, qui fut, comme vous pensez bien, Bernard l'éveillé, Bernard le Virloup, mon sauveur Bernard. Je ne vous apprendrai rien, je crois, madame, en vous disant que nos amours étaient la plus innocente chose du monde, et que la Sainte Vierge et les saints pouvaient les regarder du haut du paradis sans rougir. Bernard avait 17 ans, j'en avais 14. Nos amours consistaient surtout à nous promener ensemble dimanche, accueillir des églantines le long des haies ou des noisettes et des mûres dans les buissons, ou encore dans les grands jours, jours de fête ceux-là, à boire du lait chaud dans le village voisin. Mon père, qui craignait par-dessus tout de me contrarier, et qui avait d'ailleurs confiance en moi, nous laissait souvent tête à tête dans ces promenades. Et pourquoi aurions-nous fait du mal? Savions-nous seulement, ou accepté par les discours des vieilles gens, ce que c'était que le mal? Que pouvions-nous désirer de plus? Nous nous voyions tous les jours, nous nous aimions, nous nous l'étions dit 100 fois, nous voulions nous marier ensemble. Nos parents le voyaient, on était contents. Les camarades de Bernard faisaient la cour aux autres filles de mon âge, comme lui à moi, et personne ne le trouvait mauvais. C'est le moyen de choisir son mari longtemps d'avance, de le bien connaître, de s'accommoder à son humeur, ou de l'accommoder à la sienne propre. Mais qu'est-ce qu'on pouvait reprendre à cela? Maris et femmes, dans notre monde, tout est jeune. Comme les garçons n'ont point d'argent, ils ne peuvent pas courir après des femmes de mauvaise vie qui leur feraient dépenser leur jeunesse et leur santé. Et comme les filles en ont encore moins, et que personne n'a 10 écus à côté d'elles, elles ne pensent pas à acheter des choses qui coûtent cher. Un bonnet blanc, une robe d'indienne, un fichu rouge ou bleu, voilà toute la toilette. Mais comment la jeunesse ne serait-elle pas heureuse? Aussi étions-nous heureux, Bernard et moi, parfaitement heureux, et nous comptions bien que ce bonheur durerait toujours. Bernard était un grand garçon, leste, bien fait, dégagé, un peu mince, qui chantait toujours, qui riait, qui m'aimait, et qui n'avait pas deux idées en dehors de moi, ni une volonté contraire à la mienne. Ses parents, qui étaient assez riches, la maison et le jardin valaient bien 5 000 francs, n'étaient pas fiers ni avares, et ils ne cherchaient pas à contrarier ses inclinations. Et quoique je n'eusse pas 200 francs de dot à attendre du vieux sans souci, mon père, et que pour les pauvres gens la différence entre nous fût énorme, son père et sa mère n'avaient pas l'air de s'en apercevoir, ils m'aimaient comme leur fille. Souvent Bernard me disait « Ah, ma petite rose d'amour !» Oui, c'était le nom que mes amis m'avaient donné, justement parce que je n'étais pas belle. « Je t'aime à la folie et les autres ne sont rien auprès de toi. Tu es toujours de l'avis de tout le monde, tu ne contraries personne. Tu es gai comme un chardonneret. Et si mes camarades pouvaient te voir et t'entendre, tous les jours comme je te vois et t'entends, ils seraient tous amoureux de toi. Quand tu leur parles, je sens quelque chose qui me serre le cœur. Et quand tu les regardes avec ces yeux bleus qui sont si beaux qu'il y en a de pareil à la ronde, oh, j'ai des envies de me jeter sur eux et de leur arracher un à un tous les cheveux de la tête. Et toi, rose d'amour, comment m'aimes-tu? » Je répondais à mon tour, « Mon bon Bernard, mon cher Virlou, mais je t'aime comme je peux, c'est-à-dire de toutes mes forces. » « C'est pas assez, » disait Bernard. Et nous commencions une dispute qui n'était pas près de finir et qui valait toujours quelque chose à Bernard, car les disputes d'amoureux ne vaudrait guère s'il ne finissait pas par un raccommodement, et le raccommodement par un baiser. Pardonnez-moi, madame, de vous dire tout cela et de vous ennuyer de tous ces détails, hélas. C'est le temps le plus heureux de ma vie, et il me semble, lorsque je vous le raconte, boire dans la même tasse un reste de crème qu'on aurait oublié par mégarde. Mais les temps heureux allaient finir. Quand Bernard eut 20 ans et moi 17, nos parents pensèrent à nous marier. Le vieux sans souci commençait à s'inquiéter de nos amours, pourtant si innocentes, et n'eût été la conscription, il nous aurait mariés tout de suite. Mais vous savez ce que c'est que la conscription, et comme elle dérange souvent la vie, la mieux réglée, et les projets les mieux établis. Pouvais-je épouser Bernard pour le voir s'enrôler 6 mois après, prendre le sac et le fusil et passer 7 ans au pays lointain? Il fut donc décidé que nous attendrions ce terme fatal avant de nous marier. Oh, ce n'est pas sans délibérer beaucoup qu'on prit cette décision. Comme les parents de Bernard étaient riches et avaient dans leur maison trois locataires qui payent chacun 100 francs, il aurait été facile de trouver un remplaçant à mon pauvre Bernard. Car si l'argent est bien précieux aux pauvres gens, encore vaut-il mieux donner son argent que ses enfants. Mais d'ailleurs, cette année-là, les remplaçants étaient fort chers. Vous vous en souvenez, madame? C'était en 1840. Et l'on disait chez nous que ceux qui partiraient cette année-là seraient tués à la guerre, comme au temps du grand Napoléon, et qu'il n'en échapperait pas un sur 10, et que ceux qui reviendraient dans leur foyer seraient estropiés à jamais. Alors, quand on nous dit tout cela, et que les remplaçants coûteraient au moins 3 000 francs pièce, la somme était si grosse qu'elle fit reculer les parents de Bernard, et qu'il fut résolu qu'on s'en remettrait au hasard et que on ne prendrait aucune précaution contre le mauvais numéro. Je ne sais pas ce que pensa Bernard, mais il fit bonne contenance devant moi et me dit: Rose d'amour, compte sur moi comme je compte sur toi et ne crains rien. S'il faut partir, je partirai. Je resterai 7 ans en Afrique ou en Allemagne ou en Italie. Mais dans le pays où l'on m'enverra, je ne penserai qu'à toi, je n'aimerai que toi. Et si tu m'aimes encore dans 7 ans, nous serons heureux tout comme aujourd'hui, foi de Bernard. Je le crus sur parole, mais je ne pus m'empêcher de pleurer. 7 ans, hélas, madame. Quand on est jeune et qu'on aime, 7 ans, mais c'est la vie entière. Et parmi les larmes, je ne pus m'empêcher de dire: Oh, la maudite conscription! Sur quoi mon père, le vieux sans souci, me dit en me prenant sur ses genoux: Oh, mon enfant, c'est la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons faite, mais que veux-tu, c'est la loi. Et après tout, Bernard, s'il y a guerre, tu reviendras peut-être colonel ou général ou maréchal, comme au temps de l'autre. Pauvre père, il cherchait à me consoler, mais je voyais bien sa tristesse, qui était peut-être plus forte que la mienne, parce que les vieilles gens désespèrent aisément de tout. Les jeunes, au contraire, croient toujours que le bon Dieu va venir à leur secours. Enfin arriva le jour du tirage, et mon pauvre Bernard, plus mort que vif, s'en alla tirer le billet de l'urne. 19. Ah, madame, quand nous vîmes ce malheureux numéro, je sentis mon cœur défaillir, et je serais tombé à la renverse au milieu de la salle où se faisait le tirage si mon père ne m'avait pas soutenu. Bernard s'avança vers nous. Eh bien, ma pauvre rose d'amour, dit-il tout pâle, c'est fini, je vais partir. Mais tu vas partir, lui répondit assez rudement mon père, mais tu vas pas mourir. Alors, donne-lui le bras et ramène-la à la maison. Quel retour! Il me semblait voir Bernard pour la dernière fois. Vous auriez cru assister à un enterrement. Mais encore, s'il était barde ou bossu, disait toujours mon père, qui faisait semblant de rire pour secouer notre tristesse. Mais non, ce gaillard-là est droit comme un nid. Il est joli garçon, il ferait 3 lieues à l'heure. Jamais le gouvernement ne voudra s'en priver pour toi, ma pauvre enfant. Le soir, on délibéra dans les deux familles sur ce qu'il fallait faire. Bernard et moi, nous assistions au conseil. Oh, dit le père Bernard, il est bien dur de travailler toute sa vie et d'amasser, avec beaucoup de peine, 4 ou 5 000 francs pour en faire cadeau au gouvernement ou n'importe à qui, quand on est vieux et qu'on ne peut plus travailler. Mon père, qui était là, ne répliqua rien. Comme il n'avait pas de dot à me donner, il était trop fier pour engager les parents de Bernard à faire donner un remplaçant à leur fils. Ce fut la mère de Bernard qui répondit à son mari. Écoute, mon vieux, c'est 3 000 francs qu'il nous faudra donner. Nous mettons sur la paille, c'est vrai, mais aimerais-tu mieux que Bernard, parti pour l'armée, quitte un fusil dans les mains, qu'il alla tuer l'ennemi? Qu'il en fût tué ou estropié pendant que nous jouions ici bien tranquillement de l'argent gagné et que nous aurions de bonnes viandes à manger, de bon vin à boire tous les jours que Dieu nous donne? À chaque bouchée, ne penserais-tu pas que Bernard est là-bas, qu'il a froid, qu'il a faim peut-être, qu'on nous le tue? Et cette pensée ne te couperait-elle pas l'appétit? Oh, pour moi, je suis vieil et infirme, n'ai pas longtemps à vivre, j'ai pas d'autre enfant que Bernard, et je veux voir les siens avant de mourir. Qu'il en coûte ce qu'il pourra, il faut lui donner un remplaçant. Comme tu voudras, dit le vieux. Crois-tu que j'aime pas Bernard autant que toi et que j'ai pas envie de voir une demi-douzaine de marmots grimper sur mes genoux et me tirer les cheveux et la barbe? Va, oh, je regrette pas plus mon argent que toi. Alors, viens ici, Bernard, et toi, ma petite rose d'amour, pleure pas comme une fontaine. Tu auras ton amoureux, c'est convenu. Allez, embrassez-vous et que ce soit là vos fiançailles. Demain, je vais chercher quelqu'un à qui je puisse vendre ma maison. Mais je ne veux pas que tu la vendes, s'écria mon pauvre Bernard. Je ne veux pas que ma mère et moi, et toi, vous soyez ruinés pour moi, je partirai. Rose d'amour m'attendra, je le sais. Je reviendrai à cheval et avec des épaulettes, comme un seigneur, et nous nous marierons dans 7 ans, comme Jacob et Rachel. Tais-toi, dit le père, et ne parle ni de Rachel, ni de Jacob, ni de 7 ans. Je veux voir ton premier-né l'année prochaine, et si Rose d'amour manque à nous le donner, je me fâcherai tout de bon. Alors, à 15 jours la noce. Est-ce décidé, vieux, sans souci? Bon, si ça plaît aux enfants, répondit mon père, je suis pas pour les contrarier. Vous croyez, madame, que j'allais être la plus heureuse des femmes? Attendez la fin, oh! La tuile tombe toujours sur celui qui ne l'attend pas. 8 jours avant celui qui était fixé pour notre mariage, le père Bernard avait trouvé un bon bourgeois qui consentait à lui prêter 3 000 francs hypothéqués sur la maison et le jardin qui en valait à peu près 2 fois autant. Aussitôt, il va chez nous le soir pour nous annoncer cette bonne nouvelle. « Eh bien, vieux sans souci, dit-il, l'affaire est faite et Bernard va se marier. C'est Malingreux qui les prête. Oh, tu connais Malingreux, ce petit homme sec avec un nez de fouine qui est une si bonne pratique pour les huissiers. Quand je dis qu'il les prête, oh, c'est une manière de parler, car il ne dépoussera pas un centime, mais il me les fait prêter par un propriétaire à 5%. C'est pas trop cher, hein, pour Malingreux. Bon, ma foi, dit mon père, je ne l'aurais pas cru coupable, capable. Oui, mais le propriétaire lui-même, qui ne les a pas, est obligé de les emprunter à un notaire à 6%. Ah, oui, 6 et 5, ça fait 11, dit mon père. Oui, 11 et 3 pour la peine de Malingreux, cela fera 14 sans comprendre les renouvellements. Enfin, Bernard est sauvé de la conscription, c'est tout ce que nous voulions. Ce sera à lui, à Rose d'amour, de regagner ma pauvre maison et d'économiser jour et nuit. Et maintenant, allez, viens sans souci. Vas-tu venir avec nous, faire une partie à Saint-Sulpice? Nous dînerons au cabaret avec toute la famille, et que c'était ma femme qui ne peut pas aller si loin. Rose d'amour et Bernard seront bien aises de se promener ensemble. Et le lendemain, nous partions 8 ou 10 ensemble à pied, plein de joie comme pour une noce. J'avais pris le bras de Bernard et nous marchions les premiers à plus d'un quart de lieue en avant. Jamais nous n'avions été si gais. Pensez un peu, madame, si jeunes, si heureux, contents de nous-mêmes, de nos parents, de nos amis, du bon Dieu et de toute la nature, délivrés d'ailleurs de toute inquiétude pour l'avenir, nous étions dans un de ces jours qu'on ne rencontre pas 3 fois dans la vie. Saint-Sulpice est un village de 40 ou 50 maisons à 2 lieues de chez nous. Derrière chaque maison sont des prés et des chènevières. Au milieu du village est une grande place avec une belle église consacrée à Saint-Sulpice, un saint à qui l'on a coupé la tête dans les anciens temps et dont les reliques font encore des miracles. Tout le village est très beau et bien situé sur le penchant de la montagne. Les prairies sont les meilleures du département, on les fauche 3 fois par an, et les bœufs si beaux que j'entendirent qu'on les envoie à Paris pour être servis sur la table de l'empereur. Vous savez mieux que moi, madame, si l'on m'a dit la vérité. La plus belle maison du village est un grand cabaret, toujours plein le dimanche, et où les gens de la ville vont quelquefois dîner comme les gens de la campagne. On y trouve toujours des pâtés, du veau rôti, des fruits, du lait, du vin d'Auvergne, de la bière et du cassis. Et comme, à cause des chemins qui sont très mauvais dans nos montagnes, il est plus commode d'aller à pied, on a toujours faim et soif en arrivant. N'étions pas, vous pensez bien, pour faire autrement que les autres, et nous ne tardâmes pas beaucoup à nous mettre à table. On but, on mangea comme à la noce. Et de fait, c'était notre noce qu'on célébrait. Après dîner, on dansa de toutes ses forces. Nous avions amené un vieux joueur de violon qui nous joua les plus belles bourrées du pays et nous fit sauter comme des basques ou comme des tanches dans la friture. Et peu à peu, on s'échauffa de telle sorte que les plus vieux se mirent de la partie et voulurent danser comme les autres. Le vieux sans souci lui-même ne se fit pas prier. On invita les paysans et les paysannes qui étaient là et qui nous regardaient à danser avec nous, et bientôt toute la commune, le maire en tête, se mit en branle et commença à faire un tel vacarme qu'on n'entendait point le son des cloches qui appelaient les paroissiens à vêpres. Pour moi, je dansais de mon mieux avec Bernard, sans que personne s'occupât de nous, tant le tumulte et les cris de joie empêchaient de rien remarquer. Quant au père de Bernard, il était d'une gaieté folle. Le vin et la danse avaient réjoui sa vieillesse. Il parlait de ses petits-enfants et chantait des chansons à boire. Enfin, la nuit vint et nous retournâmes à la ville. Comme nous arrivions, nous vîmes une grande flamme s'élever au-dessus du faubourg. C'était la maison de Bernard qui brûlait. Sa mère, restée seule et infirme, avait, sans y penser, mis le feu au rideau de son lit. On l'avait sauvée à grand-peine. La rivière était loin, on n'eut pas d'eau pour l'incendie, et la maison fut brûlée tout entière, sans qu'on pût en retirer une chaise. Ben « Allons, dit le père Bernard, plus de maison, plus d'hypothèque, plus d'hypothèque. » Plus d'argent et plus d'argent, plus de remplaçants, plus de Bernard. Mes enfants, il faut vous séparer. Bernard partira dans 10 jours. Ma pauvre Rose, vos amours sont finis pour l'éternité, à moins que vous n'attendiez ce garçon pendant 7 ans. Et 7 ans, croyez-moi, c'est beaucoup. Bernard ne dit pas un mot. On aurait cru que le tonnerre venait de tomber sur sa tête. Pour moi, je me sauvais dans ma chambre et je pleurais toute la nuit. Le vieux sans souci, qui s'inquiétait d'entendre mes sanglots à travers la cloison, se leva au milieu de la nuit et m'embrassa en disant « Pauvre Rose !» Oh, il était loin de connaître tout mon malheur. « Hélas, madame !» À l'insu de nos parents, nous étions déjà mariés devant Dieu et depuis quelques jours, je n'avais plus rien à refuser à Bernard. Jusque-là, madame, je n'avais jamais eu l'ombre d'un regret ni d'un remords. À partir de cette fatale journée, je n'eus pas un moment de repos intérieur. Je voyais mon bonheur détruit, mon mari perdu, et ce qui était pire encore, je n'avais même pas la consolation d'une bonne conscience. Ma vie était gâtée, je le voyais, je le sentais, et quoique personne ne le sût, excepté Bernard, je n'avais levé les yeux sur personne. Il me semblait qu'on y aurait lu ce que je voulais me cacher à moi-même. Enfin, je commençais à avoir honte de moi-même. Avoir honte, madame, n'est-ce pas le pire tourment qu'on puisse souffrir en ce monde? Et cette douleur était d'autant plus vive que Bernard, son père et sa mère, étant sans asile à cause de l'incendie de leur maison, furent obligés de venir habiter pendant quelque temps dans celle de mon père, et que je me trouvais tous les jours, matin et soir, en face de Bernard. Et moi, si vive autrefois, si gaie, je me sentais triste à tout moment. Je ne disais pas trois paroles par jour. Mon père lui-même finit par s'en étonner et par en chercher la cause, car il voyait bien qu'il y avait au fond de ce silence quelque chose de plus que la tristesse de voir partir Bernard. Il me fit plusieurs questions, mais je n'osais répondre. Je n'osais surtout lui dire la vérité. Et d'ailleurs, quel remède! Ce qui vous étonnera peut-être, madame, c'est que Bernard lui-même paraissait presque aussi confus que moi de la faute que nous avions commise. Soit qu'il commença d'en craindre les suites, soit qu'il devina ma tristesse et ma honte et qu'il se reprocha d'en être cause, soit enfin qu'il fut entièrement occupé de l'idée de partir et de me quitter, peut-être pour toujours. Il reprit avec moi le ton et les manières d'un frère comme auparavant. Enfin, il reçut l'ordre de partir et de rejoindre son régiment. Cette nouvelle que nous attendions tous les jours fut cependant pour nous comme le coup de la mort. Sa vieille mère poussait des cris déchirants. « Bah, malheureuse, disait-elle, c'est moi qui l'égorge et qui le tue, c'est moi qui ai brûlé la maison, c'est moi qui envoie mon fils à la mort. » Et s'adressant à son mari, « C'est ta faute aussi, vieux fou, vieux propre à rien, qui ne pense tout le long du jour qu'à boire, manger, dormir et te promener. T'avais bien besoin d'inventer cette promenade de Saint-Sulpice et ses dîners et de courir les cabarets et de vider les bouteilles et de danser comme un pantin à ton âge. Oh. Quand on pense qu'il a 55 ans, l'âge de Mathusalem, et que monsieur veut encore danser dans les prés avec toutes les filles du canton, sans cœur, va. Ma femme, dit le vieux Bernard, je n'ai que 53 ans. Oh, 53 ou 70, n'est-ce pas la même chose, vieux sans cervelle, vieux mange-tout. Et pauvre mère, dit Bernard, tais-toi, dit-elle, c'est pas à toi de m'apprendre à parler. Je suis pas encore folle, n'est-ce pas, ni imbécile, pour recevoir des conseils de mes enfants. Alors, voisine, interrompit mon père, et vous aussi, vieux sans souci, qui avez toujours la pipe à la bouche et qui avez fait mourir votre femme de chagrin, faut-il encore que vous veniez vous mêler les affaires de tout le monde? C'est assez d'avoir renversé votre soupe, voyez-vous. Faut pas venir encore cracher dans celle des autres. « C'est pas parce que nous sommes plus riches comme auparavant qu'il faut croire que vous me ferez la loi. Pauvreté n'est pas vice, voyez-vous, vieux sans souci. Et les Bernards ont toujours eu la tête près du bonnet. Et il faut pas croire qu'il n'y a qu'une fille ici et que Bernard n'en trouverait pas d'autre à épouser. Car pour les filles, nous en avons, Dieu merci, par douzaine. Et toute brûlée qu'est ma maison, Bernard n'est pas encore un parti à dédaigner et je connais des filles d'huissier. Il s'en lécherait les doigts bien volontiers, mais il n'est pas fait pour leur nez. » À ces mots, mon père se mit à bourrer tranquillement sa pipe en faisant signe du coin de l'œil au père Bernard. « Oui, oui, j'entends bien vos signes, vieux sans cœur, vieux sans souci, dit-elle. Vous avez l'air de dire à Bernard, laisse couler l'eau ou autant en emporte le vent. » Car vous vous entendez tous entre hommes comme larrons en foire. Au lieu de pleurer comme moi, mon pauvre Bernard, et de le tirer d'embarras et du service militaire, vous fumez là vos pipes comme des vins du pied. Eh bien, c'est moi qui le sauverai, moi, sa mère. Et comment ? Dit le vieux Bernard. Ben, j'irai chez le maire, j'irai chez le sous-préfet, j'irai chez le préfet, chez le général s'il faut, mais je ne laisserai pas emmener mon enfant, car ils vont me l'emmener, me le faire tuer en Afrique, pour sûr. Va, dit le père. Oui, va, c'est bientôt dit, et comment veux-tu que j'aille? Est-ce que je les connais, moi, ces gens-là et ces seigneurs? Mais tu me laisses toujours la besogne sur le dos, grand fainéant, et t'engraisses là, au coin du feu, les mains dans les poches, pendant que je trotte et que je cours par les chemins, sous la pluie, le vent et la neige, cherchant le pain de la famille. Alors, n'y va pas, reprit le vieux Bernard. Oui, n'y va pas. Et si j'y vais pas, qui donc ira? Est-ce toi, vieille poule mouillée, homme de carton, bœuf au pâturage? Et t'auras le cœur et le front de laisser partir notre enfant, notre dernier enfant, le seul qui nous soit resté de quatre que j'ai nourris. Pauvre Bernard, pauvre ami, soutien de ma vieillesse. Qui donc t'aimera puisque ton père te jette là, au coin de la borne, comme une vieille casquette? Les deux hommes se levèrent et allèrent s'asseoir sur un banc devant la porte pour fumer tranquillement leur pipe. Mais leur tranquillité ne fit qu'irriter davantage la pauvre femme, qui se mit à dire que tout le monde l'abandonnait, qu'elle le voyait bien, qu'on ne lui parlait même plus, qu'elle était bonne à porter en terre, que le plus tôt serait le meilleur, et qui, finalement, fondit en larmes et embrassa Bernard en sanglotant pendant plus d'une heure. À ce moment, les forces lui manquèrent. Elle se jeta sur son lit et s'endormit. C'était le moment que nous attendions, Bernard et moi, sans nous le dire. Nos pères étaient rentrés et s'étaient couchés aussi. Car le chagrin même ne pouvait pas leur faire oublier le travail du lendemain. Et les pauvres gens, par bonheur, ont trop d'affaires pour se lamenter éternellement, comme ceux qui ont des rentes et du loisir. Je menai Bernard dans ma chambre. Il s'assit sur la table et moi sur une chaise à côté de lui. Si vous trouvez, madame, que c'était une démarche bien hardie, il faut penser que cette entrevue était la dernière, que nous ne devions pas nous retrouver avant 7 ans, que nous avions 1000 choses à nous dire pour lesquelles il ne fallait pas de témoins, et qu'enfin je lui avais par malheur donné des droits sur moi. Au reste, il n'était pas disposé à en abuser ce soir-là, car nous nous sentions tous deux le cœur serré, et nous retenions à peine nos larmes. Rose, ma chère Rose, me dit-il, dès que nous fûmes assis, c'est la dernière fois que je te parle. Il ne faut pas que tu me craches rien. M'aimes-tu comme je t'aime et comme je t'aimerai toujours? M'aimes-tu assez pour attendre mon retour sans inquiétude et de me jurer de ne pas te marier et de n'écouter les discours de personne pendant tout ce long temps? Dis, m'aimes-tu assez pour cela? Et tout en parlant, il serrait mes mains dans les siennes avec une force et une tendresse extraordinaire. Mais oui, je t'aime assez pour t'aimer éternellement, dis-je à mon tour. Pense, reprit-il, que j'ai 20 ans aujourd'hui et que j'en aurai 27 et toi 24 à mon retour. Pense que le temps est bien long, qu'il viendra peut-être beaucoup de gens pour te regarder dans les yeux, pour te dire que tu es belle, que je suis loin et que je ne reviendrai jamais. Pense. J'ai pensé à tout, lui dis-je. Mais toi, veux-tu jurer de m'être toujours fidèle, d'avoir en moi une confiance entière, non pas seulement aujourd'hui ni demain, mais tous les jours de l'année, et dans 2 ans, et dans 10 ans, et durant la vie entière? Veux-tu jurer de ne point croire personne avec moi, quelque chose qu'on puisse te dire de ma conduite, quelques paroles qu'on puisse te rapporter? Oui, je le jure. Pense à ton tour qu'il est bien facile de dire du mal d'une honnête fille, qu'il ne faut qu'un mot d'une mauvaise langue et qu'un mensonge pour la déshonorer, qu'il se fait bien des histoires dans le pays et qu'on pourra me mettre dans quelqu'une de ces histoires. Es-tu bien résolu et déterminé à n'écouter rien de ce qu'on pourra te dire contre moi, à moins que tu ne l'aies vu de tes yeux? Et veux-tu jurer, si l'on te fait quelque rapport, quand ce rapport viendrait de ton père ou de ta mère ou des personnes que tu respectes le plus, de me le dire à moi avant toute chose, afin que je puisse me justifier et confondre le mensonge? Mais je te le jure. Et maintenant, Rose, nous sommes mariés pour la vie. Prends cet anneau d'or que j'ai acheté aujourd'hui pour toi. Et si je manque à mon serment, que je meure. Je ne répéterai pas, madame, le reste de notre conversation. Nos parents même auraient pu l'écouter sans nous faire rougir. et Bernard évitait avec soin tout ce qui aurait pu me rappeler la faute que nous avions commise. Moi-même, je n'osais y faire la moindre allusion par un sentiment de pudeur que vous comprendrez aisément. Hélas, il était bien tard pour me garder. Le lendemain, Bernard partit avec les conscrits de sa classe et alla rejoindre son régiment. Dès qu'il fut parti, je me trouvai seul comme dans un désert. Oh, je sentais que mes vrais malheurs allaient commencer.